Chapitre 49. Seul dans le complexe des archives évacuées, Verna observait la bataille à l'entrée du canyon. Soutenu par Nathan, Zimmer et ses hommes attendaient sans broncher. La dame abbesse admirait la tranquille confiance de ses militaires. Quant à Nathan, il l'avait souvent surprise et la plupart du temps en bien. Après 1000 ans, il avait réussi à s'enfuir du palais des prophètes, puis à retirer son Radahan, un exploit qui aurait dû être impossible vu la configuration du collier. Depuis, il avait accumulé les succès et les réalisations brillantes. Alors qu'elle songeait aux jours anciens sur l'île Collet, Verna repensa à Warren, l'érudit au cœur tendre qui capturait le sien. Un si grand amour. Hélas, il était tombé face aux hordes de l'ordre impérial et ce deuil était passé près de la détruire. Quand Warren et elle s'étaient enfin déclaré leur flamme, c'était avec l'idée de passer leur vie ensemble. En réalité, ils avaient eu très peu de temps. C'était tellement injuste. Depuis quelque temps, elle préférait pourtant savourer les bons souvenirs plutôt que de pleurer sur les mauvais et sur ce qu'elle n'aurait plus jamais. Même après des années, Warren lui manquait toujours. S'il avait vécu, son existence aurait été tellement différente. Alors que le vent sifflait à ses oreilles, Verna approcha du bord de la grotte et jeta un coup d'œil dans la vallée où quelques moutons au bord de l'eau paissaient encore sans berger pour les surveiller. Partout, les grottes habitables avaient été évacuées et avec un peu de chance, il n'y aurait pas de perte civile. Si Nathan et Zimmer, par miracle, repoussaient les envahisseurs, tous les braves gens pourraient revenir chez eux. Quelque temps plus tôt, avec Ren et d'autres détenteurs du don, Verna avait réussi à déclencher une avalanche sous laquelle des milliers de soldats ennemis avaient péri. Nathan, tous les sorciers et magiciens d'Ildakar, les sœurs de la lumière, les érudits de surplomb du monde et les soldats d'Aran ne pouvaient pas faire moins. Contre toute attente, ils finiraient peut-être par triompher. Malgré la belle confiance de Nathan, Verna était trop réaliste pour y croire. Sachant comment tout ça finirait, elle se préparait à jouer son rôle. Dans un environnement désert et silencieux, Verna se surprit à se sentir en sécurité. En pépiant, des moineaux venaient s'occuper des nids aménagés dans les anfractuosités. Un spectacle charmant qui arracha un sourire à la dame abbesse. Le calme qui précédait les tempêtes. Dans le lointain, les cris et les sons métalliques indiquaient que les hommes d'Outros se frottaient au premier piège. À la sortie du passage, côté vallée, les Darans formaient une barrière qui semblait infranchissable, mais de très loin, Verna sentait la tension dans l'air. Quand les premiers envahisseurs déboulèrent dans la vallée, la magie se déchaîna des deux côtés. Sous l'onde de choc, des pans entiers de roches se détachèrent des falaises. Comme une meute de loups, les soudards chargèrent. Une main en visière, Verna regarda Nathan projeter une série de boules de feu. Percutés de plein fouet, des dizaines d'antiques guerriers se consumèrent sur pied. Les Morassites, dans ce carnage, virevoltèrent comme des ballerines semant la mort sur leur passage. Avec des murs d'air, les 8 sœurs de la lumière barraient le chemin aux assaillants, les repoussant assez pour qu'ils aillent s'empaler sur les lames de leurs camarades. Les érudits, qui maîtrisaient assez peu de sortilèges, continuaient à déverser une pluie mortelle sur les soudards. Olgia invoqua une autre nappe de brouillard. Cette fois, dès que les agresseurs y furent entrés, elle la bombarda d'éclairs qui firent des ravages. Perry transforma une partie du sol en sable mouvant où des dizaines de soldats s'enfoncèrent. Mais pour 10 soudards morts, 100 nouveaux déboulaient. Un raz-de-marée. Après avoir lancé des ordres, le général Zimmer, peu économe de sa personne, prit la tête de la contre-offensive. Dans sa solitude, Verna serra les poings de rage impuissante. Malgré le courage des défenseurs, les soudards d'Outros s'imposeraient tôt ou tard la loi du nombre. Les choses ne pouvaient pas tourner autrement. Verna avait prévenu Nathan sans que ça le dissuade de jouer les héros. Bien sûr, il ne fallait jamais baisser les bras, mais de là à se comporter comme un crétin. Bientôt, ce serait à la dame abbesse de jouer. Tendant l'oreille, elle guettait le moment où le vacarme de la bataille s'estomperait. Que n'aurait-elle pas donné pour que Warren soit là? Ensemble, ils auraient pu être très utiles. Verna avait mémorisé le sort de fusion. Tournant le dos au combat, elle observa le bâtiment des prophéties presque entièrement fondu. À présent, elle prévoyait de liquéfier l'entière falaise et de noyer l'armée ennemie sous un déluge de pierres en fusion. Mais avant, il faudrait que Nathan et les autres survivants soient en sécurité, et elle aussi. Quoi qu'il arrive, elle était prête à faire ce qui s'imposait. Avec son don, elle sentait les contours de la forme de sortilège qui courait dans tous les tunnels et le long de la paroi. Il suffirait qu'elle tire sur la première ligne de magie pour provoquer une réaction en chaîne. Ensuite, plus rien ne sauverait les archives de surplomb du monde.
Tu n'auras jamais ces trésors, Outros,
jura Verna à haute voix. La réaction activée, elle n'aurait plus qu'à grimper au sommet de la mesa, tout était prévu pour lui faciliter la tâche, puis à rallier le point de rendez-vous où attendaient les chevaux. Mêlée à de la brume de camouflage, une fumée noire montait de la vallée. Infatigable, Nathan continuait à carboniser des adversaires avec son feu de sorcier. Parmi les nouveaux assaillants, Verna repéra Outros grâce à son casque à cornes. Une magicienne au teint blafard chevauchait près de lui comme d'habitude. Les deux cavaliers se laissaient dépasser par les troupes d'assaut qui commençaient à repousser les soldats d'Aran et les détenteurs du don.
« Nathan, il est temps de filer !»
murmura Verna comme si le vieil homme pouvait l'entendre de si loin.
« Pars de là !»
Partageant cette analyse, Zimmer leva sa lame et donna l'ordre de battre en retraite. Stratège et tacticien hors pair, il savait depuis le début qu'on en arriverait là.
« On se replie au fond du canyon !»
cria-t-il assez fort pour que Verna l'entende. Désireux d'abattre quelques ennemis de plus, les Darans ne se hâtèrent pas. Toujours occupés par leur concours de victimes, les Morassites les imitèrent. Mais une dizaine de défenseurs étaient déjà tombés et il fallait enrayer les pertes. Pour couvrir ce repli, Nathan invoqua un mur de flammes qui fit des ravages. Dès qu'il se dissipa, des soudards déboulèrent, sautant par-dessus les cadavres encore fumants de leurs camarades. Lorsque les attaquants, au ventre vide, virent la vallée, les vergers, les moutons et les jardins potagers, ils chargèrent avec encore plus de férocité. En bon ordre, Nathan, Zimmer et les soldats reculèrent jusqu'à la pente abrupte qui menait au sommet de la mesa. Sans obstacle devant eux, les soudards se déployèrent comme un essaim d'abeilles furieuses. De son perchoir, Verna observait cette invasion de prédateurs. De défense, il n'y en avait plus. Et pas davantage d'espoir de victoire. C'était à elle d'agir comme elle le savait depuis le début. Pour se calmer, elle inspira à fond et imagina que Warren se tenait à ses côtés. Puis elle posa une paume contre la paroi de la grotte. Même si elle avait un peu frimé devant Nathan, le sort de fusion la terrorisait. Des millénaires plus tôt, de puissants sorciers l'avaient créé, des pratiquants de la magie mille fois supérieurs à n'importe quelle dame abbesse des sœurs de la lumière. Aujourd'hui, ce sortilège était l'ultime recours. Grâce à son don, Verna sentait chaque grain de sable qui composait la toile géante tissée dans le complexe, une traînée de poudre qui ne demandait qu'à s'embraser. Mais il ne fallait pas agir trop tôt, de peur de tuer Nathan et les autres. Quand ils seraient en sécurité, elle agirait puis prendrait ses jambes à son cou. Dans la vallée, les défenseurs couraient afin de sauver leur peau. Pour grimper, ils s'étaient entraînés et savaient tous exactement comment s'y prendre. Quelques soudards les poursuivaient. Le gros de la troupe, cependant, fonçait vers le pied du complexe, l'objectif prioritaire. Comme un conquérant lors d'un triomphe, Outros chevauchait au milieu de ses hommes. À un moment, il leva la tête vers la grande grotte. Malgré la distance, Verna aurait juré qu'elle avait croisé son regard.
« Tu n'auras pas ces trésors !»
répéta-elle. Fermant les yeux, elle invoqua son don et se connecta aux lignes qui formaient le sortilège.
« Je pleure afin que la pierre pleure aussi, » dit-elle en versant d'authentiques larmes sur les connaissances qui disparaîtraient bientôt à jamais. Puis elle embrasa le grain de sable de sorcier le plus proche. À partir de ce point minuscule, l'entière forme de sortilège que Nathan et elle avaient conçue prendrait feu et accomplirait son œuvre destructrice. Désormais, c'était irréversible quoi qu'il arrive. Quand elle sentit s'ameublir la roche de la grotte sous sa paume, Verna sut qu'il était temps de partir. Partout le long de la falaise et dans le complexe, le même phénomène se produisait. Des bruits sourds indiquaient que certains tunnels s'écroulaient déjà, mais le phénomène le plus spectaculaire se produirait le long de la falaise. Verna courut jusqu'à l'échelle de bois installée spécifiquement pour lui permettre de fuir. Un affreux vacarme à l'intérieur du complexe lui apprit que des salles entières s'effondraient déjà. Sans fondation solide, les bâtiments et les tours ne résisteraient pas longtemps, basculant comme des arbres abattus à la chaîne par un bûcheron. La falaise, elle, fondait littéralement, se transformant en boue. De grosses gouttes tombaient déjà de la voûte d'entrée. Verna se hâta de grimper. Insensible au sort, l'échelle de bois restait agréablement solide, mais elle s'enfonçait dans la roche ameublie, compliquant l'ascension. La réaction en chaîne était bien plus rapide que prévu. Sous les coulées de pierre, le bâtiment des prophéties dévastées disparaissait déjà presque entièrement. Verna grimpa encore, dépassant la bordure supérieure de la grotte, puis elle se retourna pour regarder derrière elle. Une coulée de roche se déversait sur les conquérants, dont les cris de victoire se transformèrent en hurlements de panique. Ils tentèrent de fuir, mais beaucoup trop tard pour sauver leur peau. Arrivée en haut de l'échelle, Verna tendit les bras, saisit les deux premières prises de la série qui la conduirait au sommet, puis reprit son ascension. À ses pieds, le sortilège continuait son œuvre. De la roche fondue dévalait la falaise et, à l'intérieur de la mesa, tout devait s'être déjà écroulé. Dans les salles, les milliers de rayonnages n'étaient plus que des fossiles. Verna éclata de rire. Elle avait réussi, comme le lui indiquait un grondement de fin du monde. Mais il était temps de se reconnecter à la toile et de neutraliser le sort de fusion. Grâce au sable de sorcier, les angles principaux de la forme de sortilège étaient solidement ancrés. Mais avec l'effondrement en cours, tout bougeait en même temps et la structure magique en était altérée. En d'autres termes, le sort avait la bride sur le cou. Inquiète, Verna serra les dents et mobilisa son don pour tirer sur les lignes de magie, un peu comme un cavalier tire sur les rênes pour arrêter sa monture. Bizarrement, à un tel moment, elle se souvint du jour où Richard Ra lui avait appris à utiliser un mort moins destructeur pour la bouche de son cheval, un moyen sûr de rendre l'animal plus coopératif. Ce garçon aimait les chevaux presque autant que les êtres humains. À ses côtés, elle avait tant appris. Mais il n'était pas là pour l'aider. Contrairement à ce qui était prévu, le sort de fusion prenait de l'ampleur au lieu de se dissiper. Après que Verna eût agi comme un catalyseur, la magie se déchaînait sans se soucier de ce qu'elle désirait ou non. Alors qu'elle luttait pour inverser le processus, une silhouette immatérielle apparut à côté d'elle, le spectre verdâtre d'Ava.
« Je vois ton sortilège !» cria la magicienne morte. « Tu n'arrêteras pas le général !»
Verna cessa de grimper, ne s'affola pas. L'esprit, elle le savait, ne pouvait pas lui nuire directement. Ava approcha, flottant dans l'air avec l'intention évidente d'intimider la dame abbesse.
« Je ne te laisserai pas faire !»
Après tout ce qu'elle avait traversé, Verna n'était pas du genre impressionnable. Les deux pieds bien calés sur leur prise, elle se lâcha d'une main et tenta de chasser le spectre comme un vulgaire insecte. Mais Ava s'approcha encore. Alors que le sort de fusion se déchaînait toujours, l'intrusion de l'esprit avait déconcentré la dame abbesse à un moment crucial. Parce qu'elle avait atteint la zone où le sort aurait dû ne plus agir, Verna s'était crue en sécurité. Hélas, au-dessus de sa tête, bien au-delà de la zone prédéfinie, la roche continuait à fondre.
« Non, ce n'est pas possible !»
La falaise glissait toujours vers les soldats adverses pour les ensevelir. Décidément, le destin de ces hommes était lié à la pierre, mais cette fois, ils ne se réveilleraient plus. Ava tenta une dernière attaque, une illusion qui la faisait paraître trois fois plus grande que nature. Puis elle vit ce qui se passait, cria de détresse et vola au secours de son cher général. Verna recommença à grimper, avec l'espoir d'atteindre un endroit stable d'où elle pourrait reprendre sa lutte contre le sortilège. Elle parvint à gagner encore un peu de hauteur, mais la roche sous ses pieds devint de plus en plus meuble, idem pour les prises où s'accrochaient ses mains. La chute arriva, inéluctable. Verna glissa le long de la falaise. Par réflexe, elle tenta de se retenir, mais à quoi bon quand on plantait ses doigts dans de la gadoue? En dernier recours, elle essaya de mobiliser son don pour se stabiliser, mais le combat contre le sort de fusion l'avait épuisée. Malgré tout ce qu'elle avait affirmé à Verna, sans reculer devant un peu de vantardise, les forces qu'elle avait déchaînées la dépassaient. Inexorablement, elle continuait à glisser le long de la roche ramollie. Mobilisant ce qui lui restait de pouvoir, elle réussit à dévier les flux et dominer assez le sortilège pour que la roche se solidifie de nouveau autour de ses pieds et de ses chevilles. Mais ça ne servirait à rien. Prisonnière d'un poids minéral, la tête en bas, elle continua à glisser vers le sol où des dizaines de soldats mouraient à chaque seconde. Incapable de se libérer, Verna sentit qu'une nouvelle coulée de roche la recouvrait lentement. Encore quelques instants, et ce serait fini. Juste avant le grand bond vers l'inconnu, Elle implora les esprits du bien de lui permettre de retrouver Warren de l'autre côté du voile. Ainsi, ils seraient ensemble pour l'éternité.